L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, dixième cassette, première face, page 226. Chapitre 32, la chasse au trésor, la voix, VOIX, parmi les arbres. En raison de l'effet déprimant de cette alerte, et aussi pour permettre à Silver et aux malades de se reposer, toute la troupe s'assit en arrivant au sommet de la pente. Le plateau étant légèrement incliné vers l'ouest, l'endroit où nous avions fait halte dominait un vaste paysage. Devant nous, au-delà des arbres, nous apercevions le cap des bois frangé d'écume. Derrière nous, non seulement nous avions vu sur le mouillage et l'îlot du squelette, mais encore nous pouvions distinguer, au large de la pointe sablonneuse et de la plaine orientale, une grande étendue de haute mer. Droit au-dessus de nous, se dressait la longue vue, parsemée à certains endroits de pins isolés et coupée à d'autres par de noirs précipices. On n'entendait pas d'autre bruit que la rumeur des vagues déferlant tout autour de l'île et le bourdonnement des insectes innombrables dans les broussailles. Pas un homme, pas une voile sur la mer. L'immensité de la vue accentuait l'impression de solitude. Silver, une fois assis, fit plusieurs relèvements au moyen de son grand compas. Des relèvements où on regarde la direction des choses avec la boussole pour se repérer, savoir l'endroit où on est. Voilà trois grands arbres, dit-il, à peu près en ligne droite avec l'îlot du squelette. Contrefort de la longue vue, ça doit être, je suppose, cette pointe basse. À présent, c'est un jeu d'enfant de trouver le magot. J'ai presque envie de dîner d'abord. J'ai pas faim, grommela Morgan. Je crois que ça m'a coupé l'appétit de penser à Flint. Ma foi, mon gars, tu peux remercier ton étoile qui soit mort, déclara Silver.
Il était pas beau à voir, s'écria un troisième pirate en frissonnant. Un vrai diable, qu'on aurait dit, avec sa figure toute bleue.
Ça, c'était l'effet du rhum, ajouta George Merry.
C'est bien vrai qu'il avait la peau du visage bleu.
Depuis qu'il s'était mis à penser à Flint après la découverte du squelette, il n'avait pas cessé de parler de plus en plus bas. Maintenant, ils en étaient arrivés à un véritable murmure, de sorte que le bruit de leurs paroles troublait à peine le silence du bois. Tout à coup, au milieu des arbres en face de nous, une voix grêle, aiguë et chevrotante se mit à chanter la rengaine bien connue. Ils étaient 15 sur le coffre du mort, oh, 8 et une bouteille de rhum. Je n'ai jamais vu d'homme plus bouleversé que les boucaniers à ce moment-là. Leur visage perdit toute couleur comme par enchantement. Certains se dressèrent d'un bond. D'autres s'accrochèrent à leurs voisins. Morgan s'aplatit sur le sol. « Tonnerre de Dieu, c'est Flint !» s'écria Mary. La chanson s'était arrêtée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Interrompue, aurait-on dit, au milieu d'une note, comme si quelqu'un avait posé la main sur la bouche du chanteur. Venant de si loin, à travers l'atmosphère limpide et ensoleillée, parmi les arbres verdoyants, elle m'avait paru mélodieuse et aérienne. L'effet produit sur mes compagnons n'en fut que plus étrange. « Allons, » dit Silver, dont les lèvres décolorées parvenaient difficilement à prononcer les mots. « Ça prend pas, mes amis. Pas ravirer, les gars. L'expédition commence drôlement et je peux pas mettre un nom sur cette voie. Mais pour sûr, quelqu'un nous joue une farce. Quelqu'un en chair et en os. Je vous en fiche mon billet. »
Tout en parlant, il avait repris son sang-froid et un peu de couleur. Déjà les boucaniers, prêtant l'oreille à ses encouragements, commençaient à se ressaisir lorsque la même voix se fit entendre à nouveau. Cette fois, ce n'était plus un chant, mais un appel faible et lointain, dont les échos résonnèrent plus faiblement encore dans les ravins de la longue vue.
Darby Magro,
gémissait la voix. Gémir est le seul mot qui rende exactement son intonation.
Darby Magro, Darby Magro, Darby Magro.
Puis, devenant plus aiguë, elle ajouta, en proférant un juron que je ne reproduis pas ici,
« Apporte le rhum à l'arrière, Darby !»
Les boucaniers, les yeux hors de leurs orbites, restèrent cloués sur place. Longtemps après que la voix se fût éteinte, ils continuèrent à regarder droit devant eux, muets, épouvantés. « Pour le coup, il n'y a plus de doute !» murmura l'un d'eux. « Fichons le camp !»«
C'est les derniers mots qu'il a dit !» gémit le vieux Morgan. « Oui, c'est ses derniers mots !»
Dick, ayant sorti sa Bible, priait avec volubilité. Il avait été bien élevé, ce Dick, avant de prendre la mer et de tomber en mauvaise compagnie. Seul Long John refusait de s'avouer vaincu. Je l'entendais claquer des dents, mais il continuait à tenir bon.
« Personne dans cette sacrée île a jamais entendu parler de Darby. Personne, sauf nous. »
Puis, faisant un gros effort, il poursuivit.
« Camarades, je suis ici pour trouver ce magot et je reculerai pas devant le diable lui-même. J'ai jamais eu peur de Flint quand il était en vie et mille tonnerres, je lui ferai face maintenant qu'il est mort. Il y a 700 000 livres. À moins d'un quart de mille d'ici. Quand sait-il qu'un gentilhomme de fortune a tourné la poupe à tant de jaunets à cause d'un vieux pochard de marin à la gueule toute bleue et mort par-dessus le marché? »
Mais ses compagnons ne montrèrent par aucun signe qu'ils reprenaient courage. En vérité, les paroles irrévérencieuses de Silver semblèrent accroître leur terreur.
« Amarre ça, John, déclara Mary. T'amuse pas à contrarier un esprit. »
Les autres étaient beaucoup trop épouvantés pour parler. S'ils l'avaient osé, ils se seraient enfuis dans toutes les directions. Mais la crainte les maintenait rassemblés autour de Long John, comme si son audace pouvait les protéger. Quant à lui, il avait presque entièrement surmonté sa faiblesse.
Un esprit. « Je veux bien, déclara-t-il, mais il y a une chose qui me paraît pas très claire.
Il y a eu un écho. Vous savez tous qu'on n'a jamais vu un esprit qui avait une ombre. Alors pourquoi que celui-ci aurait un écho ? C'est pas naturel que je dis. » Cet argument me parut assez faible, mais on ne peut jamais prévoir ce qui va toucher les esprits superstitieux. Et à ma vive surprise, Georges Méry parut grandement soulagé.
C'est ma foi vrai, dit-il.
Pas de doute, Long John. T'as une fameuse caboche sur tes épaules. Pas raviré, camarade. M'est avis qu'on faisait fausse route, nous autres.
Et tout bien réfléchi. Cette voix ressemblait à celle de Flint, pour sûr. Mais elle n'était pas aussi forte. On aurait dit plutôt la voix de quelqu'un d'autre. La voix de...
De Ben Gunn, mille tonnerres, rugit Silver. Ouais, pas de doute, s'écria Morgan en se relevant sur les genoux. C'était bien la voix de Ben Gunn.
Dites donc, ça change pas grand-chose, déclara Dick. Ben Gunn n'est pas ici en chair et en os, pas plus que Flint. Mais les anciens accueillirent cette remarque avec mépris.
« De toute manière, on se fiche pas mal de Ben Gunn, qu'il soit mort ou vivant, » dit Mary.
Je fus stupéfait de voir avec quelle rapidité ils avaient repris courage et en même temps leur couleur naturelle. Bientôt, ils recommencèrent à bavarder en marquant des pauses pour prêter l'oreille. Un peu plus tard, n'ayant plus rien entendu, ils rechargèrent les outils sur leurs épaules et se remirent en route. Mary marchait en tête, munie du compas de Silver pour les maintenir dans l'alignement de l'îlot du squelette. Il avait dit la vérité, tout le monde se fichait de Ben Gunn, mort ou vif. Seul Dick, tenant toujours sa Bible, jetait autour de lui des regards craintifs. Mais il ne rencontrait aucune sympathie, et Silver alla jusqu'à se moquer de ses précautions.
« Je t'ai déjà dit que tu avais abîmé ta Bible. Si elle est plus bonne pour prêter serment, comment veux-tu qu'elle compte pour chasser un esprit ? Elle vaut même pas ça !»
Et il s'arrêta un instant, appuyé sur sa béquille, en faisant claquer ses gros doigts. Mais Dick ne se laissait pas réconforter. En vérité, je ne tardais pas à comprendre qu'il était en train de tomber malade. Sous l'effet de la chaleur, de l'épuisement et du choc de cette alerte, la fièvre prédite par le docteur Livesey était emparée de lui et devenait rapidement plus forte. Arrivés au sommet, nous trouvâmes la marche facile. Nous descendions légèrement, car ainsi que je l'ai dit, le plateau s'inclinait vers l'ouest. Les pins, grands et petits, poussaient très clairsemés. Et même entre les touffes de muscadiers et d'azalées, de grands espaces découverts baignaient dans un soleil brûlant. Comme nous traversions l'île en direction du nord-ouest, nous nous rapprochions toujours davantage des contreforts de la Longue-Vue, et en même temps, nous apercevions une étendue sans cesse grandissante de cette baie occidentale où j'avais été ballotté, tout tremblant, sur mon coracle. Nous atteignîmes le premier des grands arbres, mais après avoir fait un relèvement, nous constatâmes que ce n'était pas le bon. Il en fut de même pour le deuxième. Le troisième s'érigeait à presque 200 pieds de hauteur, 60 mètres, au-dessus d'un épais taillis. Ce géant, au tronc rougeâtre, aussi gros qu'une maisonnette, aurait pu abriter les manœuvres d'une compagnie de soldats. Une compagnie, ça fait 150 hommes à peu près. Visible de fort loin sur la mer, à l'est comme à l'ouest, il aurait pu très bien servir de point de repère sur la carte. Mais ce n'était pas sa taille qui impressionnait mes compagnons. C'était de savoir que 700 000 livres en or se trouvaient enfouis quelque part dans l'étendue de son ombre. À mesure qu'ils approchaient, l'idée de cet argent dissipait leur terreur première. Leurs yeux flamboyaient, leurs pas devenaient plus rapides et plus légers. Toute leur âme était liée à cette fortune, à cette existence de prodigalité et de plaisir qui les attendait. Silver sautillait sur sa béquille en grommelant. Ses narines dilatées frémissaient. Il jurait comme un possédé lorsque les mouches se posaient sur son visage brûlant et luisant de sueur. Il tirait brutalement sur le filin qui m'attachait à lui et de temps à autre, il me jetait un coup d'œil féroce. Je pouvais lire en lui à livre ouvert, car il ne prenait plus la peine de cacher ses pensées. La proximité de l'or lui avait fait oublier tout le reste. Sa promesse et l'avertissement du docteur appartenaient au passé. À n'en pas douter, il espérait s'emparer du trésor, retrouver et aborder l'Hispaniola sous le couvert de la nuit, égorger tout ce qu'il y avait encore d'honnêtes gens sur l'île et reprendre la mer, selon son projet primitif, chargé de crimes et de richesses. Bouleversé par tant de craintes, j'avais peine à suivre l'allure rapide des chercheurs de trésors. Parfois, je trébuchais et c'est alors que Silver tirait brutalement sur le filin en me lançant des regards meurtriers. Dick, qui s'était laissé distancer et fermait la marche, marmonnait tout seul prières et malédictions à mesure que sa fièvre montait. Ceci accroissait ma détresse et pour comble de malheur, j'étais hanté par la pensée du drame qui s'était déroulé jadis sur le plateau quand ce maudit boucanier au visage bleu, ce Flint, qui mourut à Savannah en chantant et en réclamant à boire, avait, ici même, de ses propres mains, massacré ses complices. Ce bois, à présent si paisible, avait dû retentir de leurs hurlements. Dans mon imagination, je croyais les entendre résonner à mes oreilles. Nous étions arrivés à l'orée du taillis.
« Hourra, camarades, en avant, tous ensemble !» s'écria Mary.
Les plus avancés se mirent aussitôt à courir. Mais brusquement, nous les vîmes s'arrêter à 10 yards de nous, 10 mètres. Un cri étouffé s'éleva. Silver redoubla de vitesse, enfonçant dans le sol l'extrémité de sa béquille avec une fureur démente. Une minute après, nous restions, lui et moi, cloués sur place à notre tour. Devant nous s'ouvrait une grande excavation,
pas très récente car ses parois s'étaient éboulées et de l'herbe avait poussé au fond. Elle contenait le manche d'une pioche brisée en deux et les planches éparses de plusieurs caisses. Sur l'une d'elles, je vis marqué au fer rouge le mot « Walrus », le nom du bateau de Flint. Nous ne pouvions conserver aucun doute. On avait découvert et pillé la cachette et les 700 000 livres avaient disparu. Chapitre 33, la chute d'un chef. On ne vit jamais ici-bas une pareille déconfiture. Chacun de ces six hommes semblait pétrifié de stupeur. Mais Silver reprit son sang-froid presque immédiatement. Tel un coureur, il avait tendu toutes ses pensées vers ce seul but, l'argent. Et il venait d'être arrêté net en une seconde. Malgré cela, il conserva toute sa tête, retrouva son calme et modifia son projet avant que ses compagnons aient eu le temps de se rendre compte de l'étendue de leur déception. « Jim, murmura-t-il en me passant un pistolet à deux coups, prends ça et veille au grain. » En même temps, il obliqua paisiblement vers le nord, puis, en quelques pas, il plaça l'excavation entre nous deux et les cinq autres. Ensuite, il me regarda et me fit un signe de tête, comme pour dire « Nous voilà dans un sale pétrin », ce qui était bien mon avis. Il avait maintenant une expression fort amicale, si bien que, révolté par ses revirements perpétuels, je ne pus m'empêcher de lui dire à voix basse « Ainsi, vous avez changé de camp une fois de plus ?» Il n'eut pas le temps de me répondre. Les boucaniers, avec force, cris et jurons, se mirent à sauter dans le trou l'un après l'autre et à creuser le sol avec leurs doigts en rejetant les planches de côté. Morgan trouva une pièce d'or. Il la montra à bout de bras en proférant une série de blasphèmes. C'était une pièce de 2 guinées et elle passa de main en main pendant quelques secondes. 2 guinées, ça fait un petit peu plus de 2 livres sterling, disons quelque chose comme 1000 francs d'aujourd'hui, 1 ou 1 500 francs, alors que le trésor tout entier représentait 700 000 livres sterling, c'est-à-dire des centaines de millions de francs d'aujourd'hui. Francs nouveaux, bien sûr, hein, pas des centimes. « 2 guinées !» rugit Mary en la brandissant vers Silver d'un geste menaçant. « C'est ça tes 700 000 livres, hein ? Ah, tu t'y connais pour faire les marchés, bon sang. C'est toi le grand homme qui a jamais rien gâché, tête de bois !»« Creusez toujours, les gars !» répliqua Long John avec un parfait cynisme. Vous trouveriez des truffes que ça m'étonnerait pas. Des truffes ! Hurla Mary. Vous entendez ça, camarade ? Je vous dis qu'il était au courant depuis le début. Regardez-le, c'est écrit sur sa figure. Ah, Mary, déclara Silver, tu es toujours candidat au grade de capitaine ? Ah, pas d'erreur, t'as de l'ambition. Mais cette fois, tout c'était pour Mary. Ils commencèrent à grimper hors de l'excavation en jetant des regards furieux derrière eux. Je remarquai une seule chose à notre avantage. Tous sortaient du côté opposé à celui où se trouvait Silver. Donc nous étions là, séparés par la fosse, 2 d'un côté, 5 de l'autre, et personne n'avait assez de cran pour porter le premier coup. Silver ne bougeait pas. Il observait les mutins, très droit sur sa béquille, et semblait plus calme que jamais. À n'en pas douter, c'était un brave. Finalement, Mary estima qu'un discours pourrait arranger les choses. « Camarades, dit-il, il y en a que 2 en face de nous. L'un, c'est ce vieil estropié qui nous a amenés ici et fourré dans le pétrin. L'autre, c'est Salmôme, à qui je veux arracher le cœur. Et maintenant, camarades !» Il leva le bras, en même temps qu'il forçait sa voix, dans l'intention manifeste de mener ses compagnons à l'assaut. Mais juste à ce moment-là, 3 coups de fusil partirent du fourré. Mary dégringola dans le trou, la tête la première. L'homme au front bandé tourna sur lui-même comme une toupie et tomba sur le flanc de tout son long, puis resta étendu, mort, mais encore agité de convulsions spasmodiques. Les 3 autres s'enfuirent à toutes jambes. En un clin d'œil, Long John déchargea les 2 canons de ses pistolets sur Mary. Et comme celui-ci tournait vers lui des yeux révulsés par l'agonie, il déclara d'un ton froid. « Georges, je crois que je t'ai réglé ton compte. » Au même instant, le docteur, Gray et Ben Gunn surgirent des muscadiers, nous tenant en main leurs fusils encore fumants, et nous rejoignirent. « En avant !» s'écria le docteur. « Faites vite, mes amis! Faut les empêcher d'atteindre les canaux !» Nous partîmes à toute allure, enfonçant parfois dans les taillis jusqu'à la poitrine. Silver, je peux vous l'affirmer, voulait à tout prix se maintenir à notre niveau. Aucun homme valide n'aurait été capable de soutenir l'effort que fournit le cuisinier, sautant sur sa béquille avec une force à faire éclater les muscles de sa poitrine. Et c'est là ce que pense le docteur. Toujours est-il qu'il se trouvait déjà à 30 yards derrière nous, 30 mètres, sur le point d'étouffer quand nous atteignîmes le haut de la pente. « Docteur !» appela-t-il. « Voyez, rien ne presse !» Effectivement, il n'y avait pas lieu de nous presser. Sur une partie plus découverte du plateau, nous pouvions distinguer les trois hommes en train de courir toujours dans la même direction, droit vers la colline du mât d'Artimon. Nous étions déjà entre eux et les canaux. Nous nous arrêtâmes donc tous les quatre pour reprendre haleine, tandis que Long John nous rejoignait lentement en s'épongeant le visage.
« Merci beaucoup, docteur, » dit-il. « Je crois que vous êtes arrivé juste à pic, pour Hawkins et pour moi. »«
Et ainsi, te voilà, Ben Gunn. Ma parole, t'es beau à voir. »« Je suis Ben Gunn, pour sûr, »
murmura le pauvre diable en se tortillant comme une anguille, tant il était gêné. Il garda le silence pendant un bon moment, avant d'ajouter d'un ton timide.
« Et comment allez-vous, Monsieur Silver ? Pas mal, merci que vous dites. »«
Ben, Ben, » murmura Long John, « quand je pense que c'est toi qui as causé ma perte. »
Le docteur envoya Gray chercher une des pioches abandonnées par les mutins au cours de leur fuite. Puis, tandis que nous descendions paisiblement la colline dans la direction des canaux, il raconta en quelques mots ce qui s'était passé. Son récit intéressa Silver au plus haut point, et Ben Gunn, le marron à demi-idiot, en était le héros du début à la fin. Ben, au cours de ses longues randonnées solitaires sur l'île, avait trouvé le squelette. C'est lui qui l'avait dépouillé. Il avait découvert le trésor et l'avait déterré. C'était le manche brisé de sa pioche qui gisait au fond du trou. Il l'avait transporté sur son dos, en plusieurs voyages épuisants, du pied du Grand Pin jusque dans une caverne où il s'était installé sur la colline aux deux pics, à la pointe nord-est de l'île. Le trésor se trouvait emmagasiné là, en sûreté, plus de 2 mois avant l'arrivée de l'Hispaniola. Le docteur lui avait patiemment arraché son secret dans l'après-midi de l'attaque. Le lendemain matin, quand il avait vu le mouillage des airs, il était allé trouver Silver, auquel il avait remis la carte, désormais inutile, ainsi que toutes les provisions, car la caverne de Ben Gunn était abondamment pourvue de viande de chèvre salée. Bref, il avait donné absolument tout pour que lui et ses compagnons puissent quitter le fortin et gagner la colline aux deux pics, où ils seraient à l'abri de la malaria. La malaria, c'est le paludisme, une maladie des régions humides, qui est transmise par des moustiques, et veillerait sur le trésor. « Quant à toi, Jim, me dit-il, j'ai agi bien à contre-cœur, mais au mieux des intérêts de ceux qui étaient restés fidèles à leur devoir. Si tu n'étais pas du nombre, à qui la faute ? » Ce matin-là, après avoir découvert que j'allais me trouver impliqué dans l'affreuse déception qu'il avait préparée aux mutins, il avait couru jusqu'à la caverne, puis, laissant le capitaine sous la garde du châtelain, il était parti en compagnie de Gray et de Ben Gunn, dans l'intention de traverser l'île en diagonale et de s'embusquer à proximité du pin. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que notre troupe avait de l'avance sur lui. Et comme Ben Gunn était particulièrement agile, il l'avait envoyé en éclaireur pour faire ce qu'il pourrait à lui tout seul. Le marron avait eu alors l'idée d'agir sur l'esprit superstitieux de ses anciens camarades. Il avait si bien réussi que Gray et le docteur avaient eu le temps d'arriver et de se mettre en embuscade avant l'arrivée des chasseurs de trésors.
Ah, dit Silver, c'est une chance que j'ai eu Hawkins avec moi. Sans ça, docteur,
vous auriez laissé couper le vieux John en morceaux sans vous en soucier le moins du monde.
Certainement, répliqua le docteur Livesey d'un ton jovial. Nous étions maintenant arrivés devant les yoles. Le docteur en démolit une à coup de pioche, puis nous embarquâmes tous à bord de la seconde et nous nous mîmes en route vers la baie du Nord. C'était un parcours de 8 à 9 milles, une quinzaine de kilomètres. Silver, bien qu'il fût recru de fatigue, dut prendre un aviron, une rame, comme tout le monde, et nous glissâmes bientôt rapidement sur une mer d'huile. Après être sortis de la passe, nous doublâmes la pointe sud-est de l'île, autour de laquelle, 4 jours plus tôt, nous avions remorqué l'Hispaniola. En passant devant la colline aux deux pics, nous aperçûmes un homme debout, appuyé sur un fusil, près de la noire ouverture de la caverne de Ben Gunn. C'était le châtelain. Nous agitâmes nos mouchoirs en poussant 3 hurrahs, auxquels Silver participa aussi chaleureusement que les autres. 3 milles plus loin, à peu près 5 kilomètres, juste à l'entrée de la baie du Nord, nous rencontrâmes l'Hispaniola, qui voguait à l'aventure. La dernière marée l'avait remise à flot, et s'il y avait eu beaucoup de vent ou beaucoup de courant, comme dans le mouillage sud, ou bien nous ne l'aurions jamais retrouvée, ou bien elle se serait échouée irrémédiablement, c'est-à-dire cassée en s'échouant sur des récifs, des rochers. En l'occurrence, il y avait peu de dégâts, à part la grand-voile en lambeaux. Ayant paré une seconde ancre, nous mouillâmes par une brasse et demie de fond, c'est-à-dire nous jetâmes l'ancre par un fond d'environ 3 mètres sous la coque du navire, puis nous regagnâmes la crique du Rhum, point le plus proche de la caverne au trésor. Ensuite, Gray, seul dans la yole, revint à l'Hispaniola, où il devait passer la nuit à veiller.
Fin de la première piste de la 10e cassette, page 238, L'île au trésor, par Robert Louis Stevenson.